Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Entre 10h30 et 12h30, Parlons Vrai chez Bourdin. Nous partageons l'actualité, vous le savez, et je vous attends au 0826 300 300. Je dis nous partageons l'actualité. D'ailleurs, ce matin, nous allons revenir sur ce procès qui va s'ouvrir dans 3h maintenant. Oui, 13h30 à Paris, le procès des auteurs. L'auteur principal a été tué, il n'est pas là, de l'attentat de Nice. C'était le 14 juillet 2016. 6 ans déjà, cet attentat absolument meurtrier, un camion bélier qui a fauché 80 civils. Enfin, camion bélier, c'est un homme qui était au volant de ce camion, qui a zigzagué sur la promenade des Anglais pour faire le maximum de victimes. 86 morts, de nombreux enfants, des adolescents qui ont été tués, plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais à Nice. Nous allons y revenir évidemment avec des témoignages. Vous étiez peut-être sur place ce soir-là, ce 14 juillet-là. Racontez-nous, appelez-nous 0826 300 300. Tout à l'heure, entre 11h et midi, je vous parlerai de la violence au quotidien cette fois. Que faire contre cette violence au quotidien ? On en parle pratiquement tous les jours dans l'actualité, vous l'avez remarqué, et j'aimerais qu'on cherche ensemble des solutions. Que faire face à ces incivilités, face à ces agressions, face à ce sentiment d'insécurité qui nous gagne tous ? Que faire ? Nous en parlerons avec nos invités tout à l'heure entre 11h et midi. Et puis de midi à midi et demi, autre sujet. Vous vous souvenez, vous avez peut-être entendu cette information, c'était il y a 8 jours, l'hôpital de Corbeil-Essonne cyberattaqué. Comment les négociateurs ont fait baisser, les négociateurs du GIGN ont fait baisser le montant de la rançon. Les harceleurs, les hackers demandaient 10 millions d'euros. Les experts du GIGN ont fait baisser la rançon à 1 million d'euros, mais est-ce que l'hôpital a payé ? Le patron de l'hôpital sera avec nous tout à l'heure entre midi et midi et demi, puis nous aurons un hacker. Je trouve incroyable ce monde dans lequel nous vivons maintenant, où il y a des hackers situés à l'autre bout du monde qui rançonnent des cliniques privées, ça se passe aux États-Unis, qui rançonnent des hôpitaux. Nous essaierons de comprendre tout cela, et là encore, si vous avez un témoignage à apporter, vous n'hésitez pas, le 0 826 300 300. Il est 10h33. C'était donc le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à Nice. Ce soir-là, 22h33, un poids lourd s'engage sur la promenade des Anglais. Un 19 tonnes, loué 3 jours auparavant. Sur le trottoir, le camion zigzague, avec pour seule idée, faire des victimes. En 4 minutes et 17 secondes, ce poids lourd, le conducteur, que le poids lourd n'y est pour rien, c'est le conducteur, 86 morts, dont 15 enfants et adolescents. Félix Mathieu, le procès s'ouvre aujourd'hui à 13h30, 865 parties civiles.
Oui, avec 133 avocats attendus sur le banc des accusés, 8 personnes de nationalité tunisienne, franco-tunisienne et albanaise, 3 comparaissent déjà détenus, 3 sous contrôle judiciaire et l'un sera jugé en son absence. Selon son avocate, il serait détenu en Tunisie. La justice française a émis un mandat d'arrêt. 3 accusés, des proches du conducteur du camion, sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. L'accusation estime qu'ils avaient conscience de sa récente radicalisation. L'un en récidive encourt la perpétuité, les 2 autres risquent 20 ans de prison. Les 5 autres accusés sont eux jugés pour association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes. Ils encourent 5 à 10 ans de prison, un procès qui sera filmé pour l'histoire, comme celui du 13 novembre qui s'est terminé fin juin dans cette même salle spéciale de l'ancien tribunal de l'île de la Cité à Paris.
Le conducteur, l'assassin, sera tué le soir même. Et aujourd'hui, dans le box des accusés, il n'y a ni co-auteur, ni complice parmi les accusés. Ni co-auteur, ni complice. Nous sommes avec Philippe Soucy, qui est avocat au barreau de Nice, avocat des parties civiles au procès de cet attentat. Vous représentez... Bonjour Philippe Soucy.
Bonjour Jean-Luc Bourdin.
Merci d'être avec nous. Vous représentez 64 personnes physiques et vous représentez l'Association française de victimes du terrorisme. Je le disais il y a un instant, la particularité de ce procès, c'est que dans le box des accusés, il n'y a ni co-auteur ni complice.
C'est la particularité, vous avez raison, de ce dossier. Absence de l'auteur principal et la qualification de complicité d'assassinat qui n'a pas été retenue par les magistrats instructeurs et par la cour d'appel. Mais à l'ouverture du procès, je veux insister que sur le fait que malgré cette situation, le procès et le moment de l'ouverture de ce procès n'en demeure pas moins important. Il faut avoir à l'esprit que dans cette situation, il y aura forcément des zones d'ombre. Et dans tout procès, il reste des zones d'ombre. Mais il faut l'accepter et le procès n'en demeure pas moins important.
Alors, le procès est important parce que nous allons chercher la vérité, comme dans tous les procès, hein, et notamment lever ces zones d'ombre. Mais il est important aussi pour les familles des victimes, Philippe Soucy.
Il est important, très important pour les familles des victimes, il est important pour la société de façon générale, parce que c'est la réponse d'une société démocratique à la barbarie, mais surtout important pour les parties civiles, parce que c'est un moment essentiel, malheureusement l'expérience nous l'a montré, dans le processus de reconstruction et de résilience, et d'ailleurs dans l'immense diversité des attentes des parties civiles, quel que soit l'endroit où chacune d'entre elles met le curseur. On voit que des parties civiles se sont tenues très proches du dossier, d'autres éloignées. On voit que des parties civiles vont venir aujourd'hui à Paris ou à Nice. On voit que des parties civiles vont témoigner, que d'autres ne vont pas témoigner. Il y a toutes les situations possibles et parfaitement respectables.
Alors certaines familles vont témoigner, vous le disiez, d'autres ne vont pas témoigner. Pourquoi ?
Je pense qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que c'est ce qui leur fait le moins mal possible.
Oui.
Ce sont des situations à chaque fois individuelles. Vous avez des gens qui ont besoin de témoigner et vous avez des gens pour lesquels c'est impossible de témoigner. Et on voit chacune, je le disais, met le curseur là où elle le souhaite. Je crois qu'il faut respecter toutes les positions, le prendre avec humilité. On l'a vu dans d'autres procès, les témoignages sont des moments extrêmement douloureux, mais peuvent être aussi libérateurs. Ce qu'on a fait au sein de l'Association française des victimes du terrorisme, c'est justement beaucoup de pédagogie, et je l'ai fait moi-même avec les personnes physiques que je représente, pour que les parties civiles, c'est ce qui me paraît le plus important à l'ouverture de ce procès, puissent s'approprier le procès pénal. Se l'approprier, c'est en comprendre les tenants et les aboutissants, et essayer d'en tirer quelque chose.
Mais Philippe Soucy, encore une fois, j'y reviens, parce que c'est essentiel. Je me mets à la place des familles des victimes. Lorsqu'il y a, comme ça, un attentat aussi meurtrier, aussi violent, aussi terrible, qu'attendent les familles des victimes. On l'a vu lors du procès du 13 novembre, on l'a vu. Ils attendent de voir face à eux le coupable, celui qui a tué. Là, il n'y a personne face aux familles des victimes. Enfin, il y a des accusés, mais qui ne sont que quoi, des comparses. Comment pourrait-on les appeler ?
C'est une j'ai la liaison qui a été coupée.
Oui.
C'est une frustration qui est incontestable.
Oui. J'imagine la frustration.
Voilà, c'est une frustration. Mais je dis à l'ouverture de ce procès que malgré cette frustration. Il ne faut pas s'y arrêter. Le procès demeure un moment important.
Un moment important pour les familles des victimes, le moment de témoigner, qui est évidemment toujours un moment important, si difficile à vivre, évidemment, hein, le moment du témoignage, mais essentiel. Vous en avez beaucoup discuté avec ces personnes. Que vous ont-elles dit ?
Là aussi, grande diversité de situations. Véritablement, on l'a vécu dans d'autres procès. Vous avez des gens qui en attendent beaucoup, d'autres qui en attendent moins. Moi, à titre personnel, ce que je pense, c'est qu'il ne faut ni surinvestir, ni sous-investir le procès pénal. Le procès pénal peut apporter quelque chose si on est approprié les tenants et les aboutissants. Mais évidemment, il y a le temps de l'instruction, le temps du jugement, et je pense aussi au temps d'après.
Philippe Soucy, il ne faudra pas attendre, parce que les familles des victimes attendent une peine prononcée, mais il ne faudra pas attendre que la peine prononcée soit à la hauteur de l'immense préjudice.
Mais c'est tout ce travail de pédagogie qu'on a fait les uns et les autres et au sein de l'Association française des victimes du terrorisme. Bien évidemment qu'on ne peut rien attendre de ce point de vue-là. Et il fallait le dire avant ce procès pour éviter de trop grandes frustrations. Et on l'a dit et on l'a répété, on n'a pas l'auteur principal. C'est évidemment une immense frustration, mais c'est incontournable. Donc prenons ce qu'il y a dans ce procès pour comprendre ce qui s'est passé. Ça me paraît capital. Et de ne pas fixer à l'ouverture de ce procès sur ce sujet incontournable de l'absence de l'auteur principal. C'est évidemment une frustration. Mais ça n'empêchera pas de comprendre. Et je pense que comprendre fait aussi partie du processus de reconstruction. Je ne mésestime pas du tout les déceptions qui pourront naître de cette situation, les frustrations. Néanmoins, voilà, c'est la situation, il faut la prendre comme ça.
Restez avec nous, si vous le pouvez, encore quelques minutes, Philippe Soucy. Merci d'être là. Dans un instant, je serai avec un nouvel invité sur ce procès. Et vous réagissez. 0-826-300-300, vous n'hésitez pas à réagir. Vous étiez peut-être sur la promenade des Anglais ce soir-là. Dans un instant, Jean-Claude Hubler sera avec nous, président et fondateur de l'association Live for Nice. Il était présent sur la promenade des Anglais ce 14 juillet 2016. Il est 10h41 déjà. Vous êtes sur Sud Radio.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
L'attentat de Nice, l'attentat terroriste de Nice, c'était le 14 juillet 2016 avec nous Philippe Soucy, qui est avocat au barreau de Nice, avocat des parties civiles au procès de cet attentat, et puis Jean-Claude Hubler, que j'accueille, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, président fondateur de l'association... Allô ? Oui, Jean-Claude Hubler. Bon, fondateur de l'association Live for Nice. Philippe Soucy, un mot tout de même. Il n'est pas question non plus de passer sous silence les présumées responsabilités des accusés. On est bien d'accord ?
Mais bien évidemment.
Je dis ça parce que nous avons beaucoup parlé de l'absence de l'auteur, de l'assassin, hein ? De l'absence de l'assassin, il n'y a pas de poursuite pour complicité, mais il y a quand même des accusés dans cette affaire.
C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que l'expression « second couteau », j'entends cette petite musique depuis plusieurs jours, je la récuse totalement.
Vous avez raison, moi aussi je la récuse.
Il n'y a pas de second couteau dans un procès terroriste. Il n'y a pas de second couteau dans un procès terroriste. Voilà.
C'est la raison pour laquelle je tenais à préciser les choses, Philippe Soucy. Jean-Claude Hubler.
Oui.
Vous êtes donc avec nous. Vous étiez sur la promenade des Anglais ce soir-là, le 14 juillet 2016.
Oui, j'étais encore sur la plage au moment que le camion est passé.
Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu, ce camion ? Zigzagué ?
J'avais la mer dans le dos et j'ai vu le camion arriver de l'aéroport et j'ai tout de suite compris que c'était un attentat.
Tout de suite ?
Tout de suite. Ça ne pouvait pas être autre chose, un camion ce soir-là. Avec les rues fermées, ça pouvait pas être un accident.
Un camion sur une voie fermée qui zigzague et bon, vous avez compris tout de suite que c'était un attentat. Ensuite.
Donc j'ai dit à ma famille, à mes amis, j'ai dit, vous bougez pas de là, c'est un attentat, et je suis monté sur la prom.
Comme la je suis secouriste. Allez-y.
Oui, pardon. Comme je suis, j'ai un brevet de secouriste, donc je suis monté pour porter secours. Et j'ai appelé le 112 avec un pompier pour déclencher pour nombreuses victimes. Et là, c'était de voir la catastrophe.
Là, tout de suite, vous vous êtes rendu compte de l'étendue de la catastrophe, Jean-Claude Hubler. Vous êtes allé aider immédiatement.
Oui, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau de certaines victimes. Les deux qui me restaient étaient encore vivantes, mais je pense qu'elles auraient été intransportables. J'ai aidé une dame, je lui ai tenu la main jusqu'à temps qu'elle décède.
J'imagine que vous vivez avec ces images-là depuis le 14 juillet 2016, Jean-Claude Hubler, que vous ne pouvez plus chasser de votre esprit.
Non, c'est des images qui reviennent en permanence. De temps en temps, alors le procès s'est approché, donc automatiquement ça revient plus souvent. Mais on n'oubliera pas.
Vous étiez avec votre neveu et des amis.
Oui, c'est ça.
Donc vous avez aidé, vous avez appelé le 112, vous avez aidé les premières victimes. Les secours sont arrivés rapidement.
Ça a mis du temps. Je savais très bien que vu la configuration de Nice, on attendrait longtemps d'avoir beaucoup de secours arrivés. Parce que les premières personnes qui étaient parties avaient repris sûrement leur voiture et créé peut-être des embouteillages.
Vous dites, j'ai passé ma soirée à recouvrir les corps, à protéger des vols les victimes.
Oui.
À protéger des vols les victimes ?
Oui, on a eu des vols. Il y a eu des vols ce soir-là. J'ai chopé un gamin de 13 ans à peu près qui avait piqué quelque chose.
Sur les victimes ?
Oui, on l'avait mis. Alors, c'était pas grand-chose. C'était un espèce d'overboard, là, les machins à roulettes, qu'on avait mis à côté d'une victime. On ne savait pas si ça lui appartenait ou pas. Donc on s'est dit, s'il y a l'institut médico-légal et tout ça, ils vont faire des investigations. On s'est dit, il vaut mieux qu'il y ait des objets à côté. Et à un moment, on m'a prévenu qu'un gamin avait mis le piqué derrière, que j'ai rechopé au passage.
Les CRS sont arrivés vers 1h du matin, c'est cela ?
1h16.
1h16.
Et dès qu'il y a le responsable du premier camion est sorti, il m'a dit « Monsieur, vous n'avez rien à faire d'ici, vous partez. »
Oui.
Et nous avons des agents de police qui étaient avec moi depuis un petit moment, depuis pratiquement le début de la soirée, ont été le voir pour lui dire qu'il fallait qu'il y ait un peu qu'il se calme.
Jean-Claude Hubler, vous aussi, vous allez vivre ce procès. J'en parlais avec Philippe Soucy il y a un instant et je le soulignais, même si l'assassin n'est pas là, dans le box, il y a 8 accusés, 7 hommes et une femme qui seront là, qui sont des amis, des connaissances, je ne sais pas moi, les fournisseurs d'armes présumés. Aucun n'est jugé pour complicité, mais ils sont là face aux victimes et c'est l'essentiel.
Ah oui. Bah oui, déjà le terroriste lui-même n'est plus là. En plus de ça, il nous en manque quand même un qui est en fuite et un autre qui s'est suicidé. Donc heureusement qu'il nous en reste quelques-uns. Il va falloir qu'ils écoutent ce que toutes les victimes ont vécu, vont pouvoir dire de ce soir-là, et d'assumer ce qu'ils ont pu apporter comme soutien, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, à ce fameux terroriste.
Le soutien éventuel. Et puis, ce procès va aussi servir, et là je me tourne vers Philippe Soucy, et vous aussi, Jean-Claude Hubler, va aussi servir à répondre à certaines questions sur l'organisation des secours, sur pourquoi ce camion a pu pénétrer sur la promenade des Anglais. Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse pour l'instant. Je sais qu'il y aura un autre procès, mais tout de même.
Oui, donc on va lancer une deuxième procédure, mais on n'aura pas de réponse sur le sujet. Je pense que ça ne sera pas le lieu ni le moment d'en parler.
Oui, mais enfin, ça va être présent en permanence, oui. Philippe Soucy.
Je viens, Jean-Jacques Bourdin, ce que vient de dire M. Hubler est très juste. Il y a deux procès différents. Il y a celui qui s'ouvre aujourd'hui et il y a la procédure qui est pendante à Nice sur l'éventuelle question des responsabilités. Je voudrais insister sur le fait que le procès qui s'ouvre aujourd'hui, il est strictement borné sur l'association de malfaiteurs terroristes et sur les infractions à la législation sur les armes, qu'il ne faut pas confondre les deux choses, qu'on est sur deux sujets différents, même si, évidemment, humainement, toutes les questions sont légitimes et toutes les questions pourront être posées. Mais je pense que ce n'est pas rendre service aux parties civiles, c'est ma position d'avocat, que de mélanger les deux sujets. Ce serait même peut-être rendre service aux accusés. Je suis très sceptique sur ce mélange des choses. On a deux procès différents, strictement bornés par des qualifications juridiques différentes.
Mais bien sûr, Philippe Soucy, mais vous savez bien que le risque est là.
Mais c'est pas un risque, je le répète, c'est humainement compréhensible que toutes les questions puissent être éventuellement évoquées à l'occasion de ce procès. Mais je pense qu'il est de la responsabilité aussi des avocats de dire attention, on est dans deux sujets très différents pour ne pas mélanger les choses.
Vous êtes d'accord avec cela, Jean-Claude Hubler ?
Excusez-moi. Oui.
Jean-Claude Hubler ?
Voilà, je comprends. Moi, je l'ai dit à pas mal de victimes qu'il ne faut absolument pas mélanger les deux. Oui. Comme l'a dit M. Soucy, c'est sur deux procédures distinctes. Automatiquement, on va en parler pendant le procès. Mais nous aurions préféré que la deuxième procédure ait lieu, soit jugée avant le procès contre l'attentat pour éviter de le polluer, justement.
Je comprends. Que les réponses soient apportées avant pour permettre aux victimes d'être totalement dans la reconnaissance du crime, quoi, si je puis dire.
Hein ? Exactement.
Vous aussi, vous auriez préféré que le second procès ait lieu avant, Philippe Soucy ?
Je comprends la position de M. Hubler. Les deux positions, d'ailleurs, peuvent être compréhensibles. On peut inverser la proposition connaissez la longueur des procédures. Oui. Voilà, je n'ai pas de religion là-dessus. Je pense que moi, je prends tout ça avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que je peux comprendre que on puisse souhaiter que les choses se soient passées avant. Bon, peut-être qu'il était aussi bien que les accusés dans cette affaire de terrorisme soient aussi jugés avant. Vous avez d'autres personnes qui le considèrent. Je pense que les deux peuvent être considérés avec autant d'intérêt.
Alors avec opportunisme, l'État islamique a revendiqué cet attentat, je crois, deux ou trois jours après, très vite. Exactement. Mais avec opportunisme, Philippe Soucy.
Absolument, la question s'est posée de cette revendication. Il y a eu des investigations considérables qui ont été menées par les magistrats instructeurs dans cette procédure pour aboutir à la conclusion certaine, quasi certaine, mais je préfère dire certaine, qu'il s'agissait de la part de l'État islamique d'une revendication de pure opportunité et que nous n'avions aucune trace d'allégeance de l'auteur principal à l'organisation État islamique.
Oui, l'auteur principal qui était père, marié, mère, père de trois enfants, marié, enfin il était divorcé, mais qui était un homme qu'on n'avait pas connu jusqu'à quelques semaines avant l'attentat, qu'on n'avait pas connu comme islamiste avéré.
Non, absolument. C'est quelqu'un qui était précisément père en instance de divorce, mais qui était totalement inconnu des services spécialisés. Il était simplement connu de la justice pour des infractions de droit commun.
Il avait été entendu, d'ailleurs, il avait été entendu, violence, notamment pour violence conjugale.
Violence conjugale, violence également sur d'autres personnes. C'était quelqu'un qui, au demeurant, dans quelques personnalités, a montré que c'était quelqu'un d'une immense violence. On évoquera sa personnalité très longuement, même s'il n'est pas là. On évoquera très longuement sa personnalité à l'occasion du procès d'assises. Une personnalité marquée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence, de perversité, etc.
Merci Philippe Soucy. Jean-Claude Hubler, vous allez pénétrer dans la salle du tribunal. Ça va se passer comment? Vous y avez pensé, j'imagine, souvent?
Alors, j'ai eu une réunion la semaine dernière avec le procureur général et le procureur général du Pénat. Voilà, donc j'ai pu la visiter. Et je sais que le jour où je serai entendu, ça va être assez difficile, je pense.
Et là, à quelques deux heures du début du procès, 2h30 du début du procès, vous êtes déjà sur place, je crois, hein, Jean-Claude Hubler?
Oui, je suis à l'extérieur.
Vous êtes à l'extérieur. Lorsque vous allez entrer, lorsque vous allez voir les accusés, lorsque vous allez côtoyer les familles des victimes, qu'allez-vous ressentir?
Ça va être surtout de voir les accusés, parce qu'on les connaît pas, on les a jamais vus. Oui. Les familles de victimes, j'en connais plein. Et donc automatiquement, ça va. J'en ai même vu hier ici devant le palais de justice. Donc,
qui était déjà là?
Oui.
Oui, exactement. Vous vous réunissiez ces derniers temps régulièrement? Comment ça s'est passé, cette préparation?
On s'est souvent au téléphone. Il y a des associations d'aide aux victimes qui les accompagnent. Nous, on apporte plutôt un soutien. On apportera plutôt un soutien parce qu'on n'a pas beaucoup de finances. On vient d'avoir une subvention qui va nous permettre de mettre en place des séances de shiatsu ou de réflexologie et des choses comme ça.
Merci Jean-Claude Hubler. On pensera à vous. Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Il est 10h57. Vous êtes sur Sud Radio 0826 300 300. Vous témoignez, vous appelez. Nous allons parler de la violence au quotidien cette fois. Rien à voir avec le terrorisme. Non, la violence de tous les jours. Que faire face à cette violence de tous les jours? Depuis tout au long de l'été, vous avez entendu parler du refus d'obtempérer, vous avez entendu parler des rodéos, vous avez entendu parler de policiers agressés ou de postiers agressés. Tiens, nous irons à Marseille, justement. Mais que faire? Que faire? Nous aurons plusieurs invités. Vous avez des témoignages, là encore, vous avez été victime peut-être de cette violence au quotidien. Vous êtes victime de cette violence au quotidien. Appelez-nous, on a besoin de vos témoignages. 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, il est 10h58.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h04, Parlons Vrai chez Bourdin. Vous intervenez évidemment 0826 300 300. Vous savez, nous regardons l'actualité tous ensemble le matin, nous la partageons et j'attends vos témoignages sur la violence au quotidien. Là, vous êtes peut-être victime de violence au quotidien, vous avez été victime. Allez-y, 0826 300 300. Le constat est clair. C'est vrai que tout cet été, j'ai entendu parler d'actes violents en permanence dans les infos. J'ai entendu les uns les autres nous parler de la violence au quotidien. Mais que faire face à cette violence au quotidien? Nous avons plusieurs invités pour essayer de répondre. Ouf, nous ne trouverons pas comme ça, d'un coup, comme ça, de baguette magique, la solution ce matin. Mais nous allons poser le débat, parce que c'est important. Linda Kebab, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes policière déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, cofondatrice du think tank Initiative Sécurité Intérieure, pour faire entendre une voix en défense des acteurs de la sécurité. Avec nous également Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID de 2013 à 2017. Vous avez été député de Seine-et-Marne sous l'étiquette La République En Marche, c'était de 2017 à 2022. Vous connaissez bien ces problèmes de violence au quotidien. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Bourdin.
J'appellerai aussi Thibault de Montbrial tout à l'heure, qui est avocat au barreau de Paris, président du comité de réflexion sur la sécurité intérieure. Mais tout de suite, je voudrais donner la parole à un homme qui a 19 ans et qui, à Marseille, fait tout ce qu'il peut pour essayer au quotidien de contrer, de faire face à cette violence au quotidien. Il essaie d'aider ses compatriotes. Il s'appelle Amine Kessassi. Amine Kessassi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 19 ans, c'est bien cela, Amine?
Dans quelques mois.
Bon, dans quelques mois, vous avez créé l'association Conscience Marseille Nord. Si je vous ai demandé d'être avec nous ce matin, c'est d'abord parce que j'ai vu cette information qui m'a fait bondir. Le quartier de la Bricarde à Marseille Nord, vous connaissez ce quartier évidemment, Amine?
Totalement.
2500 habitants. Eh bien, les habitants ne peuvent plus recevoir leur courrier. La Poste a décidé de ne plus livrer, de ne plus envoyer de facteurs. Il n'y a plus de courrier dans le quartier. Et les habitants de la Bricarde sont obligés de se déplacer dans un bureau de poste pour aller chercher leur courrier. C'est bien cela, Amine?
C'est ça. Et au final, c'est deux problèmes qu'on constate, parce que le premier problème, c'est un problème technique pour les habitants de se déplacer jusqu'au bureau de poste le plus proche, qui n'est pas très proche au final. Et le deuxième problème, c'est un problème un peu plus de fond et un peu plus de société, c'est de se dire qu'encore une fois, le service public part dans nos quartiers et puis on trouve ça normal et personne ne fait rien.
Voilà. C'est-à-dire que dans ce quartier, le service public n'est pas assuré. Ce qui est un problème récurrent, malheureusement, de plus en plus souvent dans certains quartiers. Amine Kessassi, pourquoi avez-vous créé votre association ?
Alors, j'ai fondé l'association Conscience parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que les jeunes des quartiers populaires, les jeunes des quartiers sud aussi, peuvent se réunir, peuvent travailler ensemble et on est, nous, en capacité de pouvoir s'exprimer pour nous-mêmes, de pouvoir mener des actions, de pouvoir dire haut et fort ce dont on a besoin pour nos quartiers ou pas.
Vous êtes originaire de ces quartiers nord?
Totalement.
Amine, je crois savoir même que votre frère aîné a été retrouvé calciné dans une voiture.
C'est ça, c'est survenu 7 mois après la création de l'association. J'avais déjà commencé à me battre, mais malheureusement, mon frère a été retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Et bon, c'est une situation malheureusement qu'on connaît à Marseille. Et depuis ce jour, j'ai décidé de m'engager beaucoup plus, de m'engager davantage et de mener des actions pour dire plus jamais ça.
En souvenir de votre frère aîné?
C'est ça.
J'observe un silence parce que je me mets à votre place. 19 ans, votre frère, je crois qu'il avait même reçu plusieurs balles quelque temps auparavant.
Totalement, il avait reçu 9 balles auxquelles il a survécu, il a été hospitalisé. Et à l'issue de ça, il a malheureusement été retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Mais ce que j'explique, c'est que bien évidemment, c'est une douleur personnelle. Moi, j'ai dû me retirer pendant un mois de l'association où j'ai pris du temps pour moi, où pour ma famille, pour un peu comprendre ce qu'on vivait. Mais à partir de ce moment, je me suis dit que c'était pas une fatalité, qu'au contraire, parce que j'ai vécu ça, je suis aujourd'hui légitime pour porter ce combat et je me dois pour lui et pour les autres victimes, malheureusement, de me battre.
Vous êtes réveillé, vous vous êtes levé pour vous lever précisément contre cette violence, contre ce qui apparaît aujourd'hui presque comme une fatalité. Vous n'en voulez pas de cette fatalité.
C'est ça, moi je dis que c'est pas une fatalité parce que malheureusement c'est une violence qu'on connaît beaucoup trop dans nos cités, qu'on connaît beaucoup trop dans nos quartiers, mais à côté de ça il faut comprendre que cette question des trafics de stupéfiants, que cette question des homicides, elle élève plein de questions. S'il y avait de l'éducation, s'il y avait des transports, s'il y avait du social, s'il y avait de la police de proximité dans nos quartiers, je suis convaincu que la violence n'aurait pas atteint l'échelle.
Vous êtes convaincu qu'il y a des solutions?
Oui, parce que sinon on s'arrête tous et on attend tous d'y passer, quoi. Non, il y a des solutions, elles existent et c'est des solutions qui ont déjà fait leurs preuves.
Qui ont déjà fait leurs preuves. Qui vous a rejoint, Amine? Vous arrivez à vous faire entendre? Vous arrivez? Est-ce que vous-même vous avez été menacé? Est-ce que on a accepté votre initiative dans votre quartier?
Bien évidemment que l'initiative elle a été acceptée parce que premièrement je suis né dans ces cités donc je connais un peu les gens de ces quartiers, mais deuxièmement c'est que moi ces jeunes là qui pratiquent cette violence, qui sont malheureusement impliqués dans ces fléaux, je dis qu'ils sont responsables de leurs actes et que bien évidemment s'il y a une justice il faut qu'ils soient condamnés, mais qu'à côté de ça moi je trouve que ces jeunes ils sont aussi victimes d'un système, c'est que si on leur avait proposé un emploi, c'est que s'il y avait de l'éducation dans nos cités, peut-être que ces jeunes ne seraient pas tombés dans ces fléaux.
Oui, mais Amine Kessassi, vous savez très bien que certaines familles vivent de ces trafics. Vous savez très bien que certains de ces jeunes gagnent plus en participant à ces trafics plutôt qu'en travaillant.
Oui, bien évidemment que malheureusement des familles vivent sur ce système, mais ce n'est pas une généralité, heureusement d'ailleurs, dans nos cités. Ça ne représente que quelques familles, et donc bien évidemment que la police doit faire son travail à cet effet. Mais après, moi je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut éradiquer, que c'est quelque chose avec quoi on peut se battre, et surtout que ces jeunes-là, ils font ça pas par choix. Vraiment, moi je suis convaincu que si on leur propose une alternative, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, nous on a pris notre responsabilité. Moi, dès qu'on a commencé à être médiatisé, j'ai lancé un appel à des entreprises qui nous ont rejoints et qui ont signé une convention. Il y a une entreprise qui est sous-traite pour Airbus et qui a engagé 15 jeunes de nos cités, des jeunes qui malheureusement étaient engagés, qui étaient dans ces trafics de stupéfiants. Et l'entreprise a décidé d'oublier leur passé, d'effacer le reste, de les former. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils retapent des hélicoptères, ils retapent des avions et ils sont insérés professionnellement. Donc, c'est
possible. Et ça se passe bien.
Pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui a arrêté. Sur les 15 jeunes, il n'y en a qu'un seul qui a arrêté. Donc il y a 14 jeunes aujourd'hui qui ont tous leur appartement. Je suis allé visiter chacun leur appartement, j'ai discuté avec tous ces jeunes, et tous ces jeunes aujourd'hui demandent qu'une chose, c'est oublier leur passé et continuer à avancer comme ils le font actuellement.
Merci Amine Kessassi. Merci beaucoup. Linda Kebab, vous entendez ce témoignage?
Oui, bien sûr, on l'entend et puis on partage la douleur de cette personne. En réalité, ce témoignage, il soulève plusieurs questions. C'est évidemment l'échec de la question de la sécurité à Marseille. Vous parlez tout à l'heure de fatalité. C'est vraiment pire encore, c'est une banalisation, une normalisation en fait de cette insécurité avec des habitants qui subissent et qui presque acceptent finalement que Marseille soit et cette réputation sulfureuse, alors qu'en réalité, elle ne devrait pas. Il y a évidemment la question du trafic de stupéfiants. On entend le propos de ce jeune homme et en même temps on s'interroge en fait sur la défaillance des institutions, à commencer par l'éducation puisqu'il en a parlé, qui en effet est peut-être aujourd'hui défaillante quant à garantir cette promesse républicaine d'accéder en fait finalement à la vie économique et sociale d'un pays comme tous les citoyens français. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a abordé ce sujet qui doit être abordé et qui ne doit pas être éludé au motif de la criminalité, qui est finalement le sujet du libre-arbitre des criminels, mais au-delà de cette question-là de l'échec de l'éducation, de manière générale, il y a aussi la question des normes et des valeurs en fait, qui sont inculquées à ces d'abord jeunes, qui deviennent ensuite des criminels. Être pauvre n'est pas, c'est certes un facteur économique, mais ce n'est pas toute la pauvreté qui accède à la criminalité.
Je
et donc il y a ce défaut de transmission
d'ailleurs, des valeurs. D'ailleurs, je vais parler d'une forme de désinhibition. hein, de la part de ces criminels, de ces délinquants. Des inhibitions, pourquoi ? Parce qu'ils ils n'ont plus peur du tout d'affronter la police, ils n'ont plus peur, ils sont totalement désinhibés dans leurs actes. Jean-Michel Fauvergue.
Oui. D'abord, saluons la parole d'Amine.
C'est formidable, cette initiative.
Oui, c'est formidable.
19 ans, vous imaginez.
C'est formidable. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est... il vous a répondu, il a dit, il n'y a pas de fatalité. D'autres entendent aussi ce combat aussi, ce sont les flics et les gendarmes. Il n'y a pas de fatalité. Et pour eux, ils se dressent tous les jours contre la criminalité pour une meilleure vie et pour une vie paisible des citoyens. Mais c'est vrai, et vous avez raison aussi, M. Bourdin, de dire ça, c'est vrai que la criminalité que l'on vit aujourd'hui, la criminalité de voie publique, hein, celle qui embête le plus de personnes, que l'on vit aujourd'hui, est une criminalité qui est devenue de plus en plus violente, avec des auteurs qui sont de plus en plus désinhibés et qui ne respectent plus du tout les règles, encore moins qu'avant, face à ceux qui sont chargés de
nous
défendre.
Ni les règles parentales, ni les règles de la société, ni qui n'ont plus peur de la police, Linda Kebab. Peur de la police.
Les règles parentales, quand il y en a, tout à l'heure, quand je vous parlais de transmission des valeurs, il y a aussi cette défaillance-là, en fait. L'environnement familial, l'environnement amical de ces personnes-là qui baignent dans la criminalité, qui font le choix de baigner dans la criminalité, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on vient d'un quartier populaire qu'on est forcément un criminel. Il y a évidemment ce côté très opportuniste et cette envie faite d'acquisition illégale et immorale. Donc il y a évidemment les environnements qui participent finalement à construire cette criminalité et puis cette défiance permanente à l'égard des forces de l'ordre qui, comme l'a très bien dit Jean-Michel il y a quelques instants, ne sont pas des personnes qui sont dans la fatalité, sinon ils auraient démissionné depuis longtemps. Leur engagement aujourd'hui est à saluer. Néanmoins, on va parler des solutions après tout au long de l'émission,
mais
c'est un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui on a des acteurs de manière insuffisante qui sont sur le terrain pour lutter contre la criminalité, les policiers en premier lieu, particulièrement à Marseille, mais derrière en fait c'est l'ensemble des institutions peut-être qui n'arrivent pas à se coordonner pour permettre enfin à cette société de vivre un petit peu plus apaisée.
Oui, Jean-Michel.
Le constat est là, on parle de criminalité de plus en plus violente, pas forcément d'une criminalité de plus en plus importante, mais en tout cas de plus en plus violente.
Oui, parce que je me méfie des chiffres.
Oui.
Les chiffres sur la criminalité. Que valent-ils d'ailleurs ces chiffres sur la criminalité les grands titres des journaux, mais attention.
Non, mais les chiffres officiels.
Il y a une réalité, c'est la criminalité au quotidien.
Oui,
c'est la délinquance au quotidien.
L'atteinte aux personnes,
oui,
c'est elle qui augmente et qui est moins acceptée dans la société.
L'atteinte aux personnes, évidemment.
On préfère se faire voler que de se faire violer ou frapper.
Mais évidemment.
Pour dire les choses très trivialement.
Et donc du coup, il faut quand même souligner, avant que de commencer sur les solutions, il faut quand même souligner que une grande partie de la population et une grande partie de notre jeunesse respecte les règles et est admirable.
Oui.
C'est important de le dire.
C'est important de le rappeler. Vous avez raison.
Sans nier le phénomène. Hein.
Oui.
Et la deuxième chose, c'est que ce phénomène-là s'étend aussi sur les autres pays européens.
Voilà, c'est-à-dire que nous ne sommes pas uniques.
Nous ne sommes pas uniques. Regardez ce qui se passe en Suède actuellement, où il y a une explosion de la criminalité extraordinaire, dans le Royaume-Uni, où ils sont confrontés aux mêmes problématiques. Pour autant, il ne faut pas, bien évidemment, nier le problème qu'on a sur nos territoires. Il faut non seulement pas les nier, mais pas se contenter de dire « il se passe pareil ailleurs, donc je ne vais pas agir ». Oui, il faut agir du point de vue organisationnel avec les forces de police, il faut agir politiquement, il faut agir avec la justice. Mais là, on rentre dans les solutions.
C'est un ensemble de solutions. Je dis quelles solutions, mais c'est évidemment quelles solutions au pluriel. Il n'y a pas une solution. Hein. Il y a la peine, il y a la justice, il y a les forces de police,
l'exécution
il y a les parents, il y a la société en elle-même, l'éducation.
Le logement.
Oui, l'emploi, le logement. Et évidemment, donc il faut agir dans toutes les directions si l'on veut lutter efficacement contre cette délinquance. Il est déjà 11h18, nous sommes ensemble, 0 826 300 300. Vous n'hésitez pas à vous appeler pour réagir, évidemment. Je vous attends, tiens, je vais prendre Daniel qui nous appelle du Vaucluse. Daniel qui sera avec nous juste après cette pub.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h21, nous parlons de la violence au quotidien. Que faire contre ces violences au quotidien? Actes de violence contre les personnes en augmentation, ça c'est clair, c'est un constat, Linda Kebab.
Oui, c'est un constat qui a été relevé par les services statistiques du ministère de l'Intérieur, qui a eu l'intelligence de dissocier les violences intrafamiliales oui. dont on sait qu'elles sont en augmentation, en augmentation parce qu'il y a une libération aussi. De la parole aussi,
oui.
et également les violences en dehors du cercle familial. Donc ça nous permet de voir qu'en effet, les violences en dehors du cercle familial sont aussi en augmentation. Là où on peut avoir une baisse de certains délits, notamment acquisitifs, la violence ou les atteintes aux personnes, elles sont en augmentation.
De 30%. Et c'est la violence qui touche évidemment les citoyens
qui sont traumatisantes,
qui traumatise les citoyens, et que c'est une violence qui se voit, en plus, qui est parfaitement visible. On a vu les deux derniers cas. Vous avez vu cette dame de 89 ans qui a été agressée par deux pré-ados, ados,
trois même,
quoi, 14-15 ans.
Hein. Oui.
On a vu ça, c'est absolument incroyable.
Et qui se sont filmés.
30 euros.
Et
qui se sont filmés.
Il faut être complètement taré, quand même, un certain moment. Ils se sont filmés.
Oui.
Mais pourquoi se filment-ils aussi? Parce qu'il y a une héroïsation de ce type de fait, et il n'y a plus aucune barrière, y compris de s'attaquer sur une octogénaire. Et ça se filme pour mettre sur les réseaux, pour avoir des likes, pour avoir des applaudissements, etc.
C'est aussi la désinhibition dont nous parlions
exactement.
Tout à l'heure.
On a un vrai
c'est la désinhibition, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, c'est aussi la désinhibition quand il s'agit de la violence faite à l'autre. Pourquoi?
Oui.
Parce que cette mamie, peut-être aussi, ils ne sont pas capables de s'identifier et d'identifier leurs propres proches à cette mamie, parce que finalement, peut-être qu'elle est un peu différente aussi. Elle ne ressemble pas à celle de leur entourage. Et on constate notamment dans les réactions qu'il y a sur les réseaux sociaux des plus jeunes à l'égard de cette affaire.
Où Certains applaudissent.
Pourquoi? Parce que pour eux, cette mamie ne peut pas être la leur. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus différente que leur propre identification. Donc il y a aussi cette identification des uns et des autres, et notamment des plus jeunes au sein de la communauté nationale, sur comment est-ce qu'on peut avoir de l'empathie pour une personne qui potentiellement est suffisamment différente, en fait, pour pouvoir m'identifier à elle. Et je pense qu'il y a aussi une question de rejet de l'autre. Il y a, en fait, c'est une mamie lambda qui ne vient pas forcément du même milieu social, qu'on ne connaît pas nécessairement. Et bien, en fait, on va la frapper en se disant, de toute manière, on n'a pas d'empathie pour elle parce qu'elle ne nous ressemble pas.
Et cette dame âgée qui, elle, a fait fuir ses agresseurs, qui a poignardé avec un canif son agresseur.
Et on espère que le couteau se porte bien, ainsi que le vieux monsieur qui a été tabassé, parce que c'est la raison pour laquelle elle a dû donner des coups de couteau, avec une légitime défense qui visiblement est retenue, et heureusement.
C'est-à-dire que c'était son mari, son mari, son compagnon,
c'est ça,
son mari,
conjoint.
Son conjoint
qui se faisait tabasser.
De 80 ans.
Elle est intervenue avec un canif et elle a fait fuir, elle a blessé, elle a fait fuir l'agresseur.
Elle a fait fuir ses comparses. Ils sont
ses
trois à agresser.
Oui.
Il y en a deux qui fuient parce qu'ils voient la détermination de la mamie. Mais une chose à retenir, c'est qu'aujourd'hui la légitime défense, elle est retenue essentiellement parce que l'acte de tabasser une personne à plusieurs est considéré comme potentiellement mortel, et deux, le code pénal prévoit la vulnérabilité de la personne, à savoir une personne octogénaire.
D'accord.
Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle la légitime défense est retenue. Mais c'est dramatique, il y a ce sujet aujourd'hui devons-nous nous défendre nous-mêmes? Certains ont parlé d'autodéfense, c'est pas de l'autodéfense qui s'est passé à ce moment-là, c'est de la légitime défense. Mais c'est dramatique que deux personnes de 80 ans, en pleine journée, il était 19h30, donc on était encore en journée, aient besoin de se défendre légitimement contre des agresseurs. Et je le précise, je m'arrêterai là sur cette affaire, c'est que l'auteur qui a été blessé, là, l'auteur principal, il fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Il est connu plusieurs fois, notamment pour des violences, des vols, etc.
Et il est toujours là.
Il est en situation irrégulière et il est toujours là. Et il sera certainement là encore longtemps parce qu'il n'y aura sûrement pas de laissez-passer
consulaire. De quelle nationalité ?
Alors, on sait que c'est un des pays du nord de l'Afrique, je n'ai pas le détail.
Bien, Jean-Michel Fauvergue.
Devons-nous nous défendre nous-mêmes là? Je rebondis sur ce que dit Linda Kebab. La réponse est oui. Oui, bien sûr qu'on doit se défendre soi-même. Mais non seulement ça, mais en plus, et c'est ce qui manque dans notre société moderne aussi, on doit porter assistance aux autres, dans la mesure de nos possibilités physiques, bien évidemment.
Bien sûr.
On ne peut pas physiquement apporter assistance aux autres, il faut à minima crier, hurler, appeler la police et surtout témoigner. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone qui prend des photos et qui filme. Moi, j'appelle les gens, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, à filmer des scènes comme ça pour que les policiers les retrouvent. Et c'est une action collective qu'il faut qu'on réétudie tous ensemble.
Avant de prendre Jean-Marc qui a été agressé, je crois, il y a quelques heures, qui est à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques, Daniel est avec nous dans le Vaucluse. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Daniel, que vouliez-vous dire ?
Moi, je fais des bonds sur mon siège parce
Allez-y.
Que je suis très 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 en colère. En même temps, c'est pas sous la colère qu'on trouvera des solutions.
Exact.
Ça fait un moment qu'on analyse la situation et qu'on essaye de trouver des propositions à faire. Il y a une réalité qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, la politique manque cruellement de courage passe son temps à faire des analyses sur la situation et leurs conséquences, mais reste dans l'immobilisme. Et aujourd'hui, chez nous, on appelle ça la politique Canada Dry. Ça a le goût de la République, ça a l'odeur de la laïcité, mais ce n'est plus de la démocratie.
Alors, que proposez-vous, Daniel ?
Eh bien, il faut résumer les choses à sa plus simple compréhension. Est-ce que nos politiques ont la volonté de vouloir changer la donne ?
Bon, mais que proposez-vous ? Parce que très bien, le constat, l'opinion politique. Moi, je suis toujours gêné quand la politique vient se mêler de ces problèmes du quotidien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la récupération politique n'est jamais loin. Que ce soit à droite, à gauche, elle n'est jamais loin. Ce qui m'intéresse, ce sont des solutions et des solutions qu'on appliquerait et qui permettraient de faire baisser cette délinquance du quotidien.
Alors, je vais vous en faire une, monsieur Bourdin.
Allez-y.
Arrêtons, parce que sur ce plan-là, je vous rejoins. Mais en attendant, ça passe toujours à un moment par le biais de la politique.
Allez-y.
Si les politiciens étaient dans la probité et dans le pragmatisme, on serait face à des solutions et pas à la définition des programmes.
Bon, alors, quelle solution préconisez-vous ?
Un seul ministère dans lequel on retrouve à la fois la justice, la police, le judiciaire et le pénitentiaire.
Eh bien voilà une proposition très intéressante, Jean-Michel Fauvergue. Qu'en pensez-vous ?
Très, très, très intéressant, Daniel. Encore faut-il que ce soit possible, mais très intéressant. Pourquoi ? Parce que la sécurité des Français, elle est assurée par une chaîne qui est composée de plusieurs maillons. Et dans les premiers maillons, vous avez l'action de la police, la police et gendarmerie, bien évidemment, sur le terrain, l'action de la police et la gendarmerie sur les enquêtes, sous l'autorité des magistrats. Et ensuite, on bascule sur la magistrature, dans laquelle vous avez des magistrats qui sont là pour enquêter, les parquetiers, les gens qui sont procureurs de la République et les juges d'instruction, et ensuite des gens qui sont là pour juger, les juges du siège. Mais après, vous avez aussi l'application des peines. Et l'application des peines passe par une dégradation des jugements qui ont été donnés par des juges d'application des peines, dont le but principal, disons-le aujourd'hui, est de limiter le nombre de peines. Parce que il y a une certaine culture qui va dans ce sens, et parce qu'on parle plus d'aménagement de peines que d'application des peines. Et ça, c'est important. Et Daniel a raison dans ce domaine.
Eh bien voilà, nous allons développer cela. Il est déjà 11h29, ça passe très très vite. 0826 300 300. Je vais prendre Jean-Marc qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. À tout de suite, vous êtes sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Les violences au quotidien, quelle solution ? Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. Jean-Marc est à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jean-Marc, et merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Jean-Jacques, et bonjour à vos invités, et merci pour me donner la parole.
Jean-Marc, voilà. Que vous est-il arrivé ?
Alors, il m'est arrivé lundi après-midi, alors que je fais toujours ma promenade matin et soir avec ma petite chienne, alors que je suis en convalescence, j'ai subi une très lourde intervention. J'étais à 72 heures de crevé, on m'a mis une valve, on m'a ouvert le thorax, on m'a opéré du ventre, anévrisme, la rate est décolonisée, enfin, je passe les détails. Voilà.
Donc vous promeniez votre chien, vous étiez en convalescence, vous promeniez votre chien, voilà. Que vous est-il arrivé ?
Et alors, dans mon périmètre, ça fait la cinquième fois que je tombe sur un individu qui, soi-disant, dort dans sa voiture. Et là, il était à poil dans sa voiture, ça faisait deux fois que je le trouvais, il faut savoir que c'est à 500 mètres d'une crèche. Voilà, il était au milieu de la voie publique, donc je suis passé, comme c'était la cinquième fois que je le voyais avec un comportement plutôt anormal, j'ai essayé d'être dans l'évitement, je suis donc passé le long de son véhicule côté passager. Et là, pour la cinquième reprise, il m'a encore vociféré des choses, qu'est-ce que t'as, je sais pas, et puis en vociférant des choses. Donc chaque fois, ça m'importune. Et j'ai cru bon faire demi-tour pour lui dire qu'il commence à fermer sa grande gueule et qu'il me laisse passer tranquillement, alors que moi, je ne suis là que pour promener mon chien. Voilà. Donc là, il m'a dit, tu vas comprendre, tu vas voir. Et il a essayé de sortir de son véhicule. Il était toujours à poil, évidemment. Donc il était assez costaud et je l'ai bloqué avec la portière. Donc j'avais un parapluie d'une main parce qu'il y avait des averses et de l'autre je tenais la portière. Sauf qu'il était plus taillé que moi, plus jeune, et qu'il a réussi à sortir. Donc j'ai essayé de m'échapper. Il m'a poursuivi sur la voie publique, il m'a projeté en l'air. J'ai rien vu arriver, je suis tombé sur les vertèbres. Donc j'ai le dos, j'avais le dos complètement cassé. Donc de la L3 à L5, j'ai un tassement qui est quand même assez sévère. Donc j'ai eu du mal à me relever. Il m'a tiré une patate du côté gauche dans la figure. Donc j'ai essayé de malgré tout de me remettre. Et avec le parapluie, j'ai essayé, j'ai gueulé de tout ce que je savais. Parce qu'il faut savoir qu'autour, il y a beaucoup de bureaux. Et c'est on appelle ça la technopole. Donc il y a beaucoup d'entreprises avec des bureaux.
Personne n'est venu à votre secours, Jean-Marc ?
Non, parce que ils n'ont pas entendu les
bien
bureaux
sûr, s'enfermer bien sûr.
Souvent. Et bon.
Donc vous vous êtes retrouvé en incapacité pendant 7 jours. Hein, on est bien d'accord. Il a été arrêté par la police ?
Ah ben j'ai donné aussitôt son signalement. J'ai cru, bon, j'ai réussi à avertir une entreprise et je suis tombé sur un chef d'entreprise très gentil, pour ne pas le citer, monsieur Amigorena, qui a pris soin d'appeler le SAMU et ensuite il a appelé la police. La police est arrivée. Ils ont, comme ils avaient un bon signalement, ils l'ont récupéré, ils l'ont arrêté.
Bien.
Donc j'ai été obligé de le voir pour assurer que c'était bien lui. Il n'y avait aucune hésitation, je veux dire, c'était bien lui. Donc ils l'ont arrêté. Et bien. Après, je suis allé porter plainte le lendemain. Je me suis fait amener parce que impossible
bien sûr.
De marcher.
Jean-Marc, vous avez déposé plainte, vous avez 7 jours d'ITT, c'est de la violence. Vous êtes le témoignage, merci pour votre témoignage, vous êtes l'exemple même de cette violence au quotidien. Vous promenez votre chien, vous croisez, c'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. Nous avons en ligne Thibault de Montbrial, qui est avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, auteur de « Osons l'autorité » aux éditions de l'Observatoire. Thibault de Montbrial, bonjour.
Bonjour Jean-Marc Bourdin.
Merci d'être avec nous. Je disais violence au quotidien, quelle solution ? Alors, quelle solution préconisez-vous ?
La première des solutions, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord sur le constat. On ne peut pas faire réfléchir à la manière de soigner un patient si on ne fait pas d'abord le diagnostic. Le diagnostic aujourd'hui, c'est qu'il y a une explosion du nombre des violences avec un abaissement du seuil de passage à la violence et une augmentation de l'intensité des violences, donc de leurs résultats. Une fois qu'on a dit ça, il y a un volet qui est un volet opérationnel, un volet policier, et un volet qui est absolument essentiel, qui est un volet judiciaire. En réalité, les policiers et les gendarmes font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas être derrière chaque citoyen, et je pense que tout le monde sera d'accord pour trouver que c'est pas si mal, qu'il n'y a pas un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen. Donc la mère de toutes les batailles, c'est la façon dont la justice française appréhende ces affaires. Pourquoi ? D'abord parce que la façon dont ça arrive, avec la multiplication des sursis, des remises en liberté, etc., aboutit à un double phénomène. Le premier, c'est que les délinquants se sentent encouragés parce qu'ils perçoivent comme de la faiblesse. Et le deuxième, c'est que les policiers se sentent découragés parce qu'ils ressentent comme un abandon. Parce qu'en réalité, la part des délinquants qui commettent de façon réitérante des infractions, donc qui les multiplient, est une part parfaitement connue. Et toute la question, c'est le sort qu'on leur réserve. Pour faire court, Jean-Jacques Bourdin, il y a beaucoup de choses à changer dans la justice, mais il y a une chose qui relève plutôt d'un domaine psychologique et une réforme qui me paraît indispensable. La modification psychologique, si vous voulez en un mot, c'est que la justice française fonctionne sur un mode conformiste depuis des décennies et ne s'adapte pas à l'évolution rapide de l'explosion des violences que l'on vit.
Je vais, Thibault de Montbrial, être très direct. Nous allons parler de la justice. parce qu'il y a une idée. Sanction pénale significative dès la première condamnation. Est-ce que, oui ou non, c'est indispensable, Thibault de Montbrial, Jean-Michel Fauvergue, Thibault de Montbrial?
Ah, moi, c'est ce que j'allais vous dire. Je préconise depuis des années, à contre-courant de toute la doctrine judiciaire et même parfois policière,
oui,
le fait que l'on frappe tout de suite dès le premier délit. Pourquoi ? D'abord parce qu'il faut savoir que souvent, c'est pas le vrai premier délit. C'est le premier délit où les gens, oui, sont attrapés. Il faut pas être naïf. Ensuite, parce que si le primo-délinquant ressort de la garde à vue et de son passage chez le juge, il va penser que le système est faible. La réforme d'Éric Dupond-Moretti, dont il se targue partout, ça a été de dire le jeune passe chez le juge tout de suite et on le revoit 6, 8 ou 9 mois après. Et en fonction de son comportement pendant ce laps de temps, on adapte la sanction. Mmh. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est qu'il faut une sanction pas excessive, qui soit proportionnée à la gravité de ce qu'il a fait, mais très vite, pour que le jeune se dise « aïe, j'ai mis le doigt dans la prise, alors, et effectivement, ça brûle ».
Alors, on va tous ensemble regarder effectivement les solutions. Sur le plan policier, purement policier, Linda Kebab, il y a un projet de loi qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Le texte, 15 articles, création de 11 unités de force mobile. Sur les 11 unités de force mobile, 6 resteront à demeure à Lyon, Lille, Montpellier, Perpignan, Nice et Marseille. 200 nouvelles brigades de gendarmerie pour doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030. 8 milliards pour les investissements numérique suffisant, utile dans tous les cas, indispensable.
Indispensable déjà sur les investissements numériques, oui, puisque malheureusement on a une administration, hein, la police est une administration française. Quand on a dit ça, on a déjà compris la moitié du problème. Et donc on est un petit peu resté au début des années 2000 en matière de numérique. Donc c'est de toute façon une modernisation qui est bienvenue et il était temps d'ailleurs, et heureusement qu'on y pense aujourd'hui parce qu'il était temps. Ensuite, sur la présence sur la voie publique, c'est une très bonne chose parce que la présence sur la voie publique n'a pas seulement vocation à interpeller ou à faire du flagrant délit pour utiliser le jargon policier, c'est aussi la question de la prévention. C'est-à-dire que quand vous avez une voiture de police ou de gendarmerie sur la voie publique, c'est aussi une infraction qui n'est pas commise, qui peut être reportée certes, mais qui n'est pas commise.
Ça dissuade.
Ça dissuade.
Est-ce que ça dissuade toujours ? Parce qu'aujourd'hui, de nombreux délinquants n'ont plus peur d'affronter,
oui,
la police.
Oui, bien sûr, il y a évidemment des délinquants qui sont qui fomentent des guet-apens contre les policiers, mais de manière, oui, générale, une présence policière ou de gendarmes va dissuader le passage à l'acte, notamment.
Et ça rassure le citoyen.
Ça rassure le citoyen. Ensuite, il y a le sujet de cette augmentation des effectifs. Le recrutement qui est prévu ne va pas permettre ce doublement des effectifs. Donc, il y a la question de la substitution. Et moi, je pose ce problème, et je suis désolée, mais il faut le poser. C'est que on a eu le cas, notamment, avec la mise en place, vous savez, ce retour de la police de proximité avec les quartiers de reconquête républicaine. On a créé des brigades coup de poing qui ont interpellé, notamment en flagrant délit, en matière de stup, de recel, etc. Très bonne chose. Sauf que derrière, on n'a pas augmenté les effectifs dans les bureaux en investigation, dans les commissariats, dans les sûretés départementales, et non plus du côté de la justice. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé de boum, retour en arrière, sentiment d'impunité. Pourquoi ? Eh bien, des vaines recherches, des sans-suite, on ferme des procédures parce que personne derrière ne peut faire les enquêtes et les magistrats ne peuvent pas recevoir les délinquants, les nouveaux délinquants interpellés par ces effectifs en nombre sur la voie publique. Donc le bleu, oui, l'investigation et la justice en plus, c'est mieux.
Bien, alors on parle du bleu, on va parler de la justice. Thibault de Montbrial, le bleu, ce projet de loi utile, insuffisant, que dites-vous ?
Ah mais, moi je dis un bon pas dans la bonne direction, mais on ne peut pas penser à la sécurité de nos concitoyens uniquement sur l'aspect policier. Il y a cet aspect de justice dont je vous ai parlé, et malheureusement, depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a l'impression que dans ce domaine, on est dans le « et en même temps », c'est-à-dire qu'on essaye de faire, en tout cas depuis Gérald Darmanin, du côté du ministère de l'Intérieur, on essaye de faire un constat et d'avancer dans la bonne direction. Et en même temps, on a Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti qui sont sur les lignes de Christiane Taubira et qui sont complètement à rebours de l'efficacité, du continuum d'efficacité qui devrait y avoir entre l'Intérieur et la justice. La deuxième chose, très vite, deux points.
Oui.
D'abord, je pense qu'également, il y a un changement d'état d'esprit et il faut que l'État assume la violence légitime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque les voyous s'en prennent aux forces de l'ordre ou s'en prennent à nos concitoyens et que les policiers ou les gendarmes arrivent, il faut que nos policiers et nos gendarmes soient certains que les parquets et les préfets les soutiendront dans leur action, dès lors bien sûr qu'ils respectent la loi. Le jour où l'État assumera et dira qu'il assume la violence légitime, je pense que le combat changera d'arme. Et le troisième point, je le dis juste là, c'est pas le débat du jour, mais on ne peut pas penser à la sécurité sans intégrer l'immigration dans l'équation.
Dans l'équation. Bien, merci beaucoup Thibault de Montbrial. Je vais prendre Sébastien tout à l'heure, mais vous avez entendu, hein, la responsabilité, on y revient évidemment, la responsabilité des politiques, oui. Réponse policière donc.
La responsabilité d'une politique pénale, oui. Qui n'existe plus, et je suis désolé de le dire à Thibault de Montbrial que je connais bien, qui n'existe plus depuis une trentaine d'années. Les choses se sont délitées de cette manière-là. Il faut arrêter de dire c'est la faute à machin, c'est la faute à truc. C'est une faute collective. Pour avoir de l'efficacité dans la lutte contre
mais si j'ai bien compris, pardon, je vous coupe Jean-Michel Fauré, il faut reprendre
le terrain. C'est dommage
de
donner les solutions.
Il faut il faut reprendre le terrain, oui. De tous les côtés. Reprendre le terrain, ça veut dire quoi? Reprendre le terrain par les policiers, ouais. Qui vont reprendre le terrain avec des effectifs, avec reprendre le terrain sur le terrain éducatif. Ah, on est d'accord aussi, ouais, des efforts qui doivent être faits. Reprendre le terrain sur le terrain judiciaire, parce que ça, c'est important. Reprendre le terrain avec des moyens donnés à la justice, évidemment, mais aussi avec des sanctions, évidemment, indispensables.
Restaurer l'autorité de tous, protéger ceux particulier les professeurs aussi.
Et reprendre le terrain dans la sanction aussi. Oui. Je veux dire, par exemple, pourquoi pas des prisons dédiées aux mineurs, oui, pour les détentions très courtes. Par exemple, c'est aussi une des réponses et une des solutions possibles. Donc, pour résumer tout, reprendre le terrain.
Oui, vous avez tout à fait raison, mais reprendre le terrain avec méthode. La méthode pour reprendre le terrain, une des méthodes, c'est d'abord, un, la présence policière accrue, c'est ce qui est annoncé avec ce fameux LOPMI, la loi, oui, d'orientation à la programmation, de 15 milliards. La moitié pour le numérique, mais pas que pour le numérique, pour la lutte contre la cyber aussi. Parce que ça, c'est une...
Je vais y venir, d'ailleurs. D'accord. Cyberattaque, ce sera le sujet
donc,
de midi.
Donc, présence sur le terrain, oui, et pas que présence sur le terrain de flics nationaux, de gendarmes nationaux. Aussi de la municipale. Et la municipale, elle est absente dans ce projet de loi. Et j'aimerais qu'on revienne sur l'article 1 qui a été cassé par le Conseil constitutionnel et qu'on donne des pouvoirs nouveaux à la police municipale. Et il y a possibilité de le faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, une fois qu'on est présent sur le terrain, c'est effectivement la sanction pénale immédiate et adaptée. Ça ne veut pas dire que pour tous les délits, on va mettre de la prison. On peut parler des courtes peines, et évidemment, pourquoi pas. Mais... moi, je pense qu'il faudrait aussi travailler sur des sanctions financières absolument plus importantes que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire taper au portefeuille, mais les multiplier par 2, par 3, par 4. Parce qu'il y a des gens qui sont solvables, il faut les casser au niveau du portefeuille. Et ça, c'est quelque chose d'important et qui pour l'instant, n'est pas...
Alors, nous allons terminer avec les solutions. Linda Kebab en a plein. Sébastien, lui, veut témoigner. Il a été cambriolé plusieurs fois. Il est à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Il est déjà 11h47, ça passe très vite. Vous êtes sur Sud Radio, 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
La violence au quotidien, les violences au quotidien, quelles solutions nous abordons depuis quelques minutes maintenant, ces solutions, reprendre le terrain, pour résumer un peu le tout, reprendre le terrain que les policiers et gendarmes vont reprendre, ou déjà reprennent d'ailleurs. Est-ce que vous constatez que les policiers et gendarmes reprennent du terrain, tiens? Linda Kebab.
Je vous dirais, on a beaucoup parlé de politique. Les politiques, oui, se succèdent, les appareils de l'État, eux, sont pérennes et continuent. Enfin, dans la mesure du possible et en fonction du nombre qu'ils sont, ils ne l'ont jamais quitté, le terrain, les policiers,
oui,
et les gendarmes.
Oui, mais enfin, il y a des terrains qu'il faut reconquérir.
On a parlé de Marseille, mais des mini-Marseilles, il y en a plein sur le territoire
Disons
français.
Disons clairement les choses.
Mais en réalité, ce dont les policiers ont besoin aujourd'hui, c'est du soutien en fait, de leur administration. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'administration française. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est le soutien aux policiers.
Assumer la violence légitime.
Bien sûr. En fait, aujourd'hui, on a un débat, notamment qui a inspiré un petit peu des idéologies anarchistes sur la légitimité ou pas de l'État à pouvoir user de la force nécessaire, donc de la violence légitime. Et oui, peut-être qu'il y a une forme de pudeur à cet égard. Est-ce que le policier a le droit d'utiliser la force et la violence légitime? Oui, c'est la loi qui le prévoit. Il y a une délégation de la population à un groupe de personnes qu'on appelle policiers et gendarmes pour cet usage. Est-ce que derrière, on doit les défendre coûte que coûte, leur apporter une protection fonctionnelle? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est défaillante? Oui. Est-ce qu'on doit pouvoir faire mieux? Oui. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette LOPMI, je ne doute pas, et c'est un appel aux parlementaires, que des amendements viennent, notamment pour mettre en place des référés protection à l'attention des policiers, pour qu'on puisse très vite leur garantir. Parce que c'est aujourd'hui un frein dans leur action, je vous le dis. Il n'y a pas de désengagement des policiers, mais les policiers nous disent « Moi, je n'ose pas user de la force parce que j'ai peur de me retrouver en garde à vue, d'être inculpé, de devoir hypothéquer ma maison pour payer mon avocat ou mes frais médicaux, et de devoir faire sortir mon enfant d'une école privée, par exemple, et j'extrapole. » Et bien donc, que la LOPMI aussi prévoit la mise en place d'une mise en œuvre meilleure pour la protection des policiers. Et je pense qu'on aura fait un petit pas. En matière de justice, ce qui importe, et finalement ce qu'on a dit depuis le début, c'est la garantie et l'assurance que la sanction arrive. Voilà. Ce n'est pas de savoir combien de temps on va en prison,
physique,
c'est d'être sûr d'être puni.
Le volet policier, on vient de le voir. Le volet justice, on l'a ébauché, on en a déjà parlé. Violence physique, condamnation d'un an au minimum, ça aussi c'est une solution. Sanction pénale significative dès la première condamnation. Prison dédiée aux mineurs pour les détentions très courtes.
Centre fermé.
Centre fermé, oui. Pas prison, centre fermé, tout ça, ce sont des mesures à prendre. Pour vous, il n'y a pas de problème, Jean-Michel Faubert.
Ah non, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous savez, je suis un ancien député de la majorité
qui a
fait 40 ans de police. Hein, donc les choses se mixent dans ma tête de manière pour trouver la meilleure efficacité possible. Parce que je sais que les solutions viendront du politique, mais d'une politique forte et qui doit être appliquée par les administrations. La problématique, ce n'est pas le politique. La problématique, ce sont les administrations qui sont pérennes et qui freinent des cas de fer
Oui, parce que les interpellations à répétition, vous en avez assez dans la police. Interpellations à répétition, on le voit ressortir, on voit le délinquant ressortir le lendemain.
Oui, les témoignages de policiers qui vous disent on n'a pas terminé de taper la procédure, qui sont déjà dehors. Oui, en effet, il y a évidemment
ce manque de moyens de la justice.
Des procédures trop longues. La modernisation du système numérique doit aussi répondre à ça, parce que
on a fait
le deuil. Alors, il y avait un débat dans la police française et la justice, c'est la réforme du code de procédure pénale, de la procédure pénale. Oui. Il faut savoir en faire le deuil, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, on a un lobbying extrêmement fort, notamment des avocats pénalistes, d'une partie des magistrats à travers le syndicat de la magistrature. On a parlé tout à l'heure du cas des mineurs avec cette césure entre le moment où on reconnaissait sa culpabilité et les 9 mois plus tard quand on sanctionne pour pouvoir un peu aménager sa peine. Donc il faut faire le deuil de cette réforme du code de procédure pénale, mais il faut améliorer l'outil. Beaucoup de gens, d'informaticiens sont prêts aujourd'hui à aider l'administration française. Comme l'a dit si bien Jean-Michel, notre problème aussi dans la police, c'est notre administration qui freine des cas de fer, qui travaille à surtout ne pas faire appliquer les lois qui sont favorables à notre travail.
Et puis je rappelle que les maires peuvent participer à cette lutte contre la délinquance. Certains le font d'ailleurs en prenant des décisions locales. Il y a aussi la défaillance des parents, mais on ne va pas ici nous répondre à cette défaillance. Comment faire. Et il y a le communautarisme aussi, qui existe.
Oui. Hein,
et le problème de l'immigration des étrangers, la délinquance étrangère.
Moi, je crois
Jean-Michel Fauvergue.
Tout à l'heure, j'ai cité une méthode, plus de présence policière et une réponse pénale, des sanctions pénales. Ensuite, il faut fixer des objectifs. Moi, je crois que les grands objectifs qui doivent être fixés, c'est une lutte implacable contre la drogue. Oui. Parce que c'est quelque chose qui gangrène l'ensemble des choses. La deuxième chose, c'est la lutte contre la récidive, qui n'est pas prise au sérieux aujourd'hui, les multirécidivistes, parce qu'on a un minimum de délinquants qui nous font un maximum de dégâts. Et la troisième chose, c'est la lutte contre l'islamisme, bien évidemment. Et sans ordre préférentiel.
Bien sûr.
Il faut mener ces trois combats.
Sébastien est à Marseille. Témoignage d'une minute, Sébastien, parce qu'on a peu de temps. Allez-y. Merci d'être avec nous, Sébastien.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais faire la victime en fait de tout ça. Donc moi j'ai déjà été victime d'un cambriolage en fin d'année 2021.
Oui.
Pendant qu'on dormait avec ma fille de 3 ans qui était à proximité de l'endroit où les gens sont rentrés.
Oui.
Et on n'a rien entendu. Et tout le quartier, on a eu à peu près 11 cambriolages dans la même nuit. Et quand on a récolté les vidéos, on a même pu identifier les gens, les personnes qui nous ont volés, c'est des enfants entre 14 et 17 ans.
Voilà.
Bon, très bien. Au-delà de ça, moi, ce que je vois aussi, je suis dans un petit village à côté de Marseille, je vois des jeunes qui font aussi des roues arrière avec leur cyclo qui passe à toute vitesse et tout ça. Et j'entends les gens, ouais, faut leur rentrer dedans et tout. Bon, c'est des enfants, avant tout, user de violence policière ou de violence policière, excusez-moi, c'est un abus de langage, mais user de violence pour les arrêter, bon, ainsi soit-il, s'il le faut. Moi, je suis plus pour de la télésurveillance, suivre les gamins, aller jusqu'où ils habitent, les récupérer et peut-être plutôt derrière, retravailler sur la partie civique. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de « oui, il faut durcir les peines, oui, il faut aller saisir les salaires ». Non, moi j'ai fait du scoutisme quand j'étais plus jeune, on prenait des gamins de cité, on les prenait avec nous, on leur donnait un cadre, on leur expliquait des choses, on leur faisait faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, c'est-à-dire travailler pour les autres, et on essayait quelque chose de constructif. Et vous voyez, moi, qui est une petite de 2 ans et demi, qui me suis fait cambrioler, qui la tient par la main tout le temps dans mon propre village, parce que j'ai peur qu'elle se fasse renverser, je pourrais être énervé, avoir envie qu'on les violente, ces enfants, qu'on leur prenne de l'argent. Mais je ne suis pas dans cette
j'ai compris, là. Sébastien. J'ai compris. Merci pour votre témoignage et merci pour votre lucidité. Merci à tous, hein, Linda Kebab, Jean-Michel Fauberg. C'est très intéressant. Bon, on ne va pas apporter résoudre le problème là, ici, mais au moins on réfléchit. Et c'est important de réfléchir. On ne réfléchit peut-être pas suffisamment assez au... il faut y aller. Il faut reprendre le terrain, je le dis, il faut reprendre le terrain face à la délinquance. Il est 11h58, merci d'être avec nous sur Sud Radio. On se retrouve juste après les infos de midi.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 12h08. Stupéfaction, oui je dis bien stupéfaction, il y a 15 jours à peu près, des hackers, des pirates informatiques ont attaqué le centre hospitalier sud-francilien, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, qui est un très gros hôpital. Attaque, cyberattaque contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Des négociations ont été engagées. C'est le GIGN qui a engagé ces négociations. Nous allons appeler dans un instant le patron de l'hôpital, parce que lui va nous répondre. Est-ce que la rançon a été payée parce que ces cyberharceleurs, ces hackers en informatique, ces hackers ont demandé une rançon de 10 millions d'euros au départ. 10 millions d'euros. Et le GIGN a fait baisser la rançon à 1 million d'euros. Mais est-ce que l'hôpital a payé ou pas? On en parle dans un instant avec le directeur de l'hôpital. Et puis nous aurons un hacker qui va nous expliquer d'où ça peut venir, comment on négocie avec eux, comment... Je trouve ça absolument passionnant, c'est invraisemblable. Vous êtes sur Sud Radio 12h10, 0826 300 300, si vous voulez intervenir, si vous êtes un spécialiste de la question, pourquoi pas, vous n'hésitez pas. 12h10, ça tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 12h13, imaginez le système informatique d'un immense hôpital paralysé. Imaginez des employés de cet hôpital qui sont obligés de remplir à la main tous les papiers administratifs, des patients qui sont obligés de remplir à la main tous les papiers administratifs. Vous imaginez la désorganisation, et je ne parle même pas des comptes rendus d'examen, etc., etc. Cyberattaque contre, il y a 15 jours à peu près, pas plus de 15 jours, contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Cyberattaque, des experts du GIGN ont été prévenus, ils ont pris l'affaire en main. Ils sont parvenus, Félix Mathieu, à faire baisser la rançon.
Oui, les hackers auraient abaissé la somme réclamée de 10 à 1 million de dollars. D'après Le Parisien Aujourd'hui en France, les négociateurs du GIGN auraient pris contact avec eux par mail. Pour cela, ils utilisent une messagerie cryptée, sécurisée, mais les enquêteurs traquent la moindre erreur des pirates informatiques qui permettrait de les localiser. Le logiciel utilisé appartiendrait à un collectif de hackers russophones, des malfaiteurs qui pourraient donc bien sévir depuis les pays de l'Est, même si ça reste, attention, à confirmer. D'un côté, les pirates informatiques préciseraient ne pas vouloir descendre sous cette somme d'un million de dollars. Et de l'autre, le centre hospitalier assurait la semaine dernière encore n'avoir aucune intention de payer quoi que ce soit.
Rançon, donc. Le centre hospitalier rançonné. Mehdi Zegouf, bonjour.
Bonjour, Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil de surveillance du centre hospitalier sud-francilien. D'abord, avant de vous poser la question essentielle, est-ce que vous avez payé? Je voudrais vous demander, et je voudrais que vous nous rappeliez quelle est l'importance de ce centre hospitalier.
Oui, effectivement. Alors, c'est le plus grand hôpital d'Île-de-France hors AP-HP, donc hors Paris, puisqu'il compte 1000 lits. Donc voilà, c'est un centre hospitalier qui répond à des besoins de santé de plus de 600 ou 700 000 habitants à cheval entre l'Essonne et la Seine-et-Marne, qui rayonne sur tout le sud francilien. Donc c'est un des plus gros hôpitaux, si ce n'est de France, d'Île-de-France.
1000 lits, combien de salariés?
3700.
3700 salariés. Est-ce que vous avez payé cette rançon?
Alors Jean-Jacques Bourdin, ce n'est pas dans mon pouvoir. Vous savez que l'hôpital, pour le coup, fonctionne pas comme à l'américaine. On est sous tutelle d'autorité, l'Agence régionale de santé, le ministère de la Santé. Ce n'est un secret pour personne. L'hôpital a des finances contraintes, nous allons dire. Donc il ne m'appartient pas, en tout cas en termes de pouvoir décisionnaire, de prendre la décision de payer ou pas une rançon. Et ce n'est pour le coup pas entre les mains de l'hôpital, puisque le parquet de Paris a été saisi. et a saisi la section cybercriminalité de la gendarmerie nationale, accompagnée par le GIGN, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont en charge de l'enquête et donc du coup des échanges avec nos hackers qui nous mettent bien en difficulté depuis 15 jours. Donc tout ça est entre les mains des enquêteurs. Je n'ai pas tous les éléments en ma possession, mais ce n'est pas mon pouvoir de prendre la décision. En
tout cas. Oui, mais vous avez des réponses tout de même, Mehdi Zeghouf. Et la première, c'est est-ce que vous êtes toujours gêné, plus que gêné, dans le travail numérique informatique de l'hôpital ?
Malheureusement, oui. Nous ne sommes pas le premier hôpital à être touché, puisque ça fait 2 ans que ces attaques se multiplient en France. Ces hackers avaient pris l'habitude depuis maintenant 4-5 ans d'attaquer des hôpitaux américains, des cliniques privées américaines.
Oui.
Donc ça fait 2 ans qu'ils attaquent.
Qui ont payé d'ailleurs des rançons.
Voilà, mais ce n'est pas le même système, vous le savez bien, de financement et d'autorité. Donc nous, oui, ça fait 15 jours qu'on est impacté par cette attaque massive. Tout notre réseau est hors service. Au prix d'une organisation en interne avec quand même une forme de solidarité exemplaire de l'ensemble des agents et puis d'un mode dégradé, hein, retour au stylo, retour au graveur CD, retour aux clés 5G, retour au tableur Excel, retour aux clés USB pour pouvoir faire circuler le mieux possible l'information. Mais on ne s'imagine pas de l'extérieur le nombre de logiciels dont on a besoin pour faire tourner un hôpital de 3700 agents et 2000 lits. C'est absolument phénoménal. Donc quand tout s'arrête, on n'y est pas forcément préparé et on est obligé de revenir à un fonctionnement comme il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc tout prend beaucoup plus de temps et nous sommes encore aujourd'hui très impactés, bien sûr, parce que ça va prendre plusieurs semaines pour rétablir l'ensemble des services.
Voilà, ça va prendre plusieurs semaines. Alors, encore une fois, ce n'est pas vous qui décidez. Je ne sais pas si une rançon sera payée ou pas, mais dans tous les cas, 15 jours après, un peu plus de 15 jours. Hein, c'est bien ça, Mehdi Zeghouf.
Oui, c'était il y a 15 jours. Un peu plus
il y a 15 jours après, vous êtes toujours gêné dans le fonctionnement, toujours, parce que des hackers venus d'ailleurs ont décidé de pirater votre système informatique.
Voilà, absolument. Écoutez, moi, je ne peux que déplorer cette attaque. Vous savez que l'hôpital ne va pas bien. C'est déjà difficile de faire fonctionner un hôpital, notamment en juillet et en août, et notamment aux urgences, puisque les personnels ont aussi besoin de se reposer après 2 ans et demi de Covid. Donc, il nous est tombé de ça en plus. Voilà, tout le monde aurait pu perdre son sang-froid. Mais je veux vraiment saluer la solidarité des 3700 agents de l'hôpital qui, malgré les difficultés, font face encore une fois. Ils sont solidaires de leurs petits
bien
camarades.
Sûr.
On a mis en place une cellule de crise qui se réunit 3 fois par semaine pour se coordonner et faire en sorte que personne ne reste dans son coin et qu'on avance vraiment ensemble. Mais nous sommes toujours fortement impactés. L'enjeu aujourd'hui, c'est de rétablir les services informatiques petit à petit. Donc, avec l'appui de 2 entreprises privées spécialisées en cybersécurité, nous rebâtissons notre architecture informatique. Nous créons ce que l'on appelle une bulle sécurisée dans laquelle nous sommes assurés qu'il n'y a plus du tout de failles à l'intérieur et dans laquelle nous allons repositionner petit à petit, ça va prendre des semaines, l'ensemble des outils informatiques.
Mais ces hackers ont accès à quoi aujourd'hui ?
Ils ont bloqué l'ensemble du système, c'est-à-dire que quand on ouvre un ordinateur, aujourd'hui l'ordinateur est bloqué.
Oui.
Nous sommes en train de nous assurer avec les experts informatiques du périmètre général de l'attaque, c'est-à-dire en termes de sécurité de nos données, etc. A priori, des premiers éléments que nous avons, nos données sont quand même largement sauvegardées, ce qui fait qu'elles ne sont pas perdues. Mais avant de pouvoir restaurer le système et de pouvoir restaurer les données, il faut s'assurer que l'ensemble du système est totalement sécurisé. Donc
bien
ça
sûr.
Va prendre du temps parce qu'il faut le faire petit à petit, application par application, ordinateur par ordinateur. Et c'est comme ça, une fois qu'on est sûr que l'architecture est entièrement sécurisée, qu'on peut relancer l'ensemble des applications métiers. Et donc ça va prendre encore une fois plusieurs semaines.
Merci Mehdi Zeghouf. Avec nous Baptiste Robert, qui est chercheur en cybersécurité et hacker français. Bonjour Baptiste Robert.
Bonjour.
Ces hackers, alors les gendarmes du GIGN travaillent évidemment, se succèdent devant les ordinateurs pour essayer de percer le mystère de ces hackers qui seraient russophones, c'est bien cela, Baptiste Robert ?
Alors c'est les hackers de ce type-là travaillent en ce qu'on appelle c'est des gangs de ransomware, donc c'est des gens qui travaillent en groupe et il y a quelques gangs qui sont connus et celui-ci est identifié, on sait c'est un gang de ransomware très connu qui vient des pays de l'Est a priori. L'attribution reste très très compliquée dans ces cas-là, c'est-à-dire être certain que ce soit telle personne, savoir qui est qui, ça reste très très compliqué, il faut des preuves. Aujourd'hui on sait que la plupart de ces gangs de ransomware sont effectivement dans ces pays de l'Est, ça peut être ce qui est très très large. Mais aujourd'hui, savoir qui est exactement derrière, c'est compliqué.
Alors, si j'ai bien compris, le GIGN, les spécialistes du GIGN ont engagé un dialogue avec eux ? Hein, il y a une, ce qu'on appelle une cellule de négociation. C'est cela, Baptiste Robert.
Alors, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, comme ça a été redit précédemment, oui. les attaques de type CryptoLocker sont quelque chose de très, très courant depuis ces dernières années. Il y a eu des hôpitaux, il y a eu des mairies, il y a eu des collectivités territoriales qui se sont fait attaquer. Et effectivement, il y a même aujourd'hui même des assurances cyber qui existent pour se prémunir de ce type d'attaque-là. Oui. Et dans ce cadre-là, il y a des négociateurs, que de la même façon que quand il y a une prise d'otage, eh ben les biais de négociation sont un petit peu les mêmes. On essaie d'obtenir une négociation, un compromis avec la personne qui nous retient en otage, parce que là, l'hôpital est un peu retenu en otage, puisqu'ils ne peuvent plus travailler, et tous les autres sont chiffrés. Donc c'est être capable de discuter, faire baisser la rançon, et revenir à la raison.
Mais la seule solution, c'est discuter, faire baisser la rançon ?
Non. Alors, non. Et comme ça a été très bien dit précédemment, le conseil des autorités est ferme. Il sait de ne pas payer. La consigne officielle, il est de ne pas payer. Il y a un travail énorme de fond, et ça a été redit très, très bien, qui va prendre des semaines, voire des mois, pour s'en relever, de refondre de l'architecture, remettre les services en route, s'assurer que les sauvegardes existent, que les sauvegardes sont saines, de restaurer tous les ordinateurs un par un, et ça c'est très très long. Payer la rançon n'est pas non plus synonyme de remise en service, parce que ça reste des criminels, et donc vous allez leur donner de l'argent sans savoir si potentiellement ils vont vous donner les clés de déchiffrement.
Évidemment.
C'est pas évident.
Baptiste Robert, prenons Marc, qui est l'un de nos auditeurs, qui est à Congénie dans le Gard. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous êtes médecin, hein, Marc.
Oui.
À propos, alors, Baptiste Robert est un spécialiste de la question en cybersécurité. Il va pouvoir répondre à la question. Quelle est la question que vous posez, le constat que vous faites, Marc ?
Alors, moi, personnellement, d'abord, je vous remercie de m'avoir appelé.
Je vous en prie. Et
de me laisser parler, effectivement. Moi, je ne vais pas me mettre sur le même topo que mon prédécesseur, car il a dit tout ce qu'il avait à dire. Mais maintenant, moi, je vais parler en tant que médecin. Vous savez, avant d'être médecin, j'étais ingénieur informaticien et je travaillais pour Marcel Dassault, d'ailleurs.
Oui.
Et je peux vous assurer qu'à l'époque, on ne laissait rien sur les bureaux, de peur que même les gens qui font le ménage viennent nous voler des informations. Les informations qui sont données, vous avez posé la question à M. Mehdi, je crois, Zegouf,
le président du conseil de surveillance du centre.
Mais de notre
hospitalier.
Côté, je trouve que les réponses ne sont pas données. Il y a deux types d'informations qui sont les données d'information de l'hôpital en lui-même, mais il y a également les informations qui concernent le patient.
Les patients,
et donc,
oui.
Et oui, et c'est surtout ça, moi, sur lequel je vais plutôt me concentrer, parce que les données de l'hôpital, eh bien, écoutez,
vous posez la question. Si j'ai bien compris, Marc, je vous coupe parce que je suis toujours pressé par le temps, évidemment. Vous posez la question et Baptiste Robert va vous répondre et va nous répondre. Vous dites, attention, les informations personnelles des patients ne sont pas suffisamment protégées. Donc les pirates pourraient avoir accès à ces données, Baptiste Robert.
Alors, c'est effectivement une question vitale, primordiale. Il faut, et c'est régi par la loi, il y a aujourd'hui le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données, qui est un règlement européen où chaque établissement se doit de traiter d'une manière particulière les données personnelles. Ces données personnelles-là, elles doivent être protégées, il y a tout un tas d'obligations. Le problème de ces attaques-là, c'est qu'un hôpital, un hôpital, c'est une ville dans une ville, avec beaucoup de professions différentes, avec beaucoup de niveaux d'appétence à l'informatique différentes. Tout le monde n'a pas la même relation avec l'informatique. Et donc, de fait, c'est très très compliqué de faire respecter la sécurité de bout en bout. Il y a beaucoup de logiciels avec des niveaux de sécurité différents. Et donc, c'est pour ça que l'architecture est importante.
Est-ce que les informations personnelles des patients sont en danger ?
Alors, dans un sens, oui, mais il y a des professionnels de qualité qui travaillent tous les jours à essayer de protéger toujours mieux.
Alors, Baptiste Robert, attendez, Marc, c'est l'inquiétude que vous avez, si j'ai bien compris.
C'est l'inquiétude que j'ai. Donc, mon inquiétude est très grande. Pour la bonne raison, c'est qui a les moyens de payer ces informations ? Qui c'est qui en a besoin de ces informations à part vous ? Eh bien, ce sont les assurances. Et les assurances vont même vous demander parfois une analyse d'urine, une analyse de sang. Mais si les assurances ont les moyens de payer les hackers, bien sûr qu'ils vont payer. Et donc, un assureur, lui, il aime bien vous assurer quand vous n'avez rien, mais dès le moment où vous devez...
Alors, il va pas, l'assurance ne va pas avoir besoin de payer. C'est-à-dire que ça fonctionne, il faut comprendre comment tout cela fonctionne. En règle générale, quand un gang de ransomware va hacker une victime, il va lui donner un ultimatum. Il va lui dire « paye la rançon, sinon je publie les données ». C'est-à-dire qu'avant de tout bloquer le système, ils exfiltrent les données. Et c'est ça qui est extrêmement important de déterminer, c'est dans quelle mesure les données ont été exfiltrées de l'infrastructure de l'hôpital. Si c'est le cas, les hackers vont se faire un malin plaisir de les publier s'ils n'ont pas satisfaction.
Bien sûr, bien sûr. Bien, merci Baptiste Robert. Oui, Marc.
Les données sont en libre accès après.
Merci Marc.
40 ans qu'on en parle. Non, je veux finir quand même un peu. Je veux
Allez-y.
Parce que ça fait 40 ans qu'on en parle de ces données. Et je vous dis une chose, c'est qu'on a fait... qui dépasse l'hôpital, ce qu'on appelle le DMP. C'est que vos informations, vous les récupérez et puis vous faites confiance. Le problème, c'est que cette confiance, à l'heure actuelle, eh bien, elle n'est pas à donner. Pour la bonne raison, c'est que tout le monde viendra chercher vos informations. Et là, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas faire le DMP, c'est de garder les informations sur des papiers, de les donner et de faire confiance aux médecins qui les gardent aussi. Parce bien. Que sinon, elles seront utilisées contre vous. Et ça fait 40 ans que je vous dis. Quand j'étais informaticien, on avait un ordinateur en... Le plaisir, c'était d'aller voir ce qu'il y avait dessus. Et ça, c'est automatique. C'est vraiment la fonction d'informaticien qui fait que ça vous amène à faire ça. Moi, je conseille aux gens de ne pas donner des informations.
Merci,
et
Marc.
Et de ne pas faire confiance à n'importe qui.
Merci, Marc, qui appelle de Congénie. Merci d'avoir participé à cette émission encore passionnante. Demain, nous serons ensemble, évidemment, à partir de 10h30. Il est 12h27, André Bercoff.